bien, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, comme d'habitude, ce matin, tu as parlé. Et comme c'est parfait de voir la coïncidence, le sujet qui se regroupe, et nous avons déjà parlé de cette lampe qui doit briller dans le monde. Nous avons parlé de ce témoignage, et surtout la transformation de notre vie qui suscite des interrogations autour de nous. Et bien voilà, Seigneur, je remets entre tes mains ce passage dans l'évangile de Marc. Que tu puisses compléter ce qu'il faut compléter, corriger ce qu'il faut corriger. Et que, Seigneur, mes frères et sœurs ne retiennent que ce qui vient de toi. À commencer par parler à l'orateur, moi le premier. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer mon sujet, je tiens à faire une remarque cette semaine pour voir comment le monde peut être mauvais, même dans les circonstances où il est question de mort. Je ne sais pas si vous l'étiez, mais vous savez, Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas ma tasse de thé. Je le dis, je le confesse. Je ne suis pas d'accord avec ses idées depuis toujours. Mais boire du champagne et danser sur la mort de quelqu'un, mes frères et sœurs, l'Église le condamne. Je tiens à partager cela avec vous. On peut combattre les idées, je suis d'accord. Mais danser sur la mort de quelqu'un, ce n'est pas le témoignage à donner. Il est auprès du Créateur et c'est auprès de Dieu qu'il aura à rendre des comptes, s'il faut rendre des comptes. Mais ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, je l'ai entendue, si je ne me trompe pas, de la bouche de mes propres étudiants. Concernant le feu aux États-Unis, c'est à Los Angeles. Et j'ai entendu une réflexion qui dit « On ne va tout de même pas pleurer sur leur sort ». Encore une fois, c'est parce que c'est pas parce que l'image que nous avons comme des gens aisés, etc., que nous n'avons pas quand même à partager cette tristesse qu'ils peuvent avoir. Vous voyez ? L'Église doit jouer son rôle dans toutes les circonstances. Riche, pauvre, mauvais ou pas, elle doit être ce témoignage de compassion. Je voulais vraiment tenir à partager cela. Et je crois que l'Église doit prendre position là-dessus.
Et c'est marrant, Abdel, excuse-moi de t'interrompre, que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils, par rapport à Jean-Marie Le Pen, parce que mon fils, il était pour aller à la place de la République à Paris pour boire effectivement du champagne et faire la tête. Il dit non. Dieu ne veut pas ça. Que tu sois musulman ou chrétien, Dieu ne veut pas ça. Et
tout à fait.
Et Jésus, il doit être triste, il doit pleurer de voir tout ce qui se passe actuellement. Et, voilà. Et je suis contente parce que ça confirme exactement ce que j'ai dit à mon fils.
Eh bien, c'est très bien. On est dans une communion de pensée et l'Église a le devoir de le rappeler à nous et cette image qu'on donne autour de nous. Eh bien, maintenant, nous allons revenir à notre passage dans l'Évangile de Marc. Nous continuons l'étude de cet Évangile et nous sommes dans le chapitre 4, versets 21 à 25. C'est extraordinaire parce que ça me réconforte, ça m'encourage parce qu'il était sujet ce matin de ce passage-là. Alors, je vais lire ce passage qui concerne la parabole de la lampe qu'il ne faut pas cacher, etc. Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je ne vais pas traiter tous les sujets parce que c'est un passage où il y a tellement de choses à dire. Mais je vais me focaliser peut-être sur une thématique qui nous concerne en s'appuyant sur sa propre expérience. On ne peut pas faire autrement. il leur dit encore, s'il y a cette phrase-là, ça veut dire que c'est en lien avec ce qui s'est passé avant. Je ne peux pas étudier ce passage-là sans faire le lien avec ce qu'on a fait avant. Parce que si on oublie ce qu'on a dit, on ne comprendra rien du tout. Ce que vient de dire le Seigneur, ça a un lien avec la parabole du semeur. D'abord, comprendre la parabole du semeur, et là, on peut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, rapidement, je ne vais pas citer les différentes situations, mais celles qui nous concernent. Dans la parabole du semeur, chapitre 4, versets 1 à 20, nous sommes arrivés, nous sommes mis d'accord, à la lumière de la parole de Dieu, que la seule terre qui plaît à Dieu, la seule terre, c'est-à-dire le cœur où le Seigneur se plaît, c'est cette terre dans laquelle la semence tombe et qui porte des fruits. La bonne terre. Notre passage nous donne la réponse d'une manière claire que les enfants, j'avais dit la dernière fois, comprennent très facilement. La bonne terre permet à la semence de germer, de croître et surtout de donner beaucoup de fruits. La bonne terre, c'est nous. La bonne terre, c'est notre cœur. Donc, il est question de fruits avec différents rendements. Hein? Nous avons lu qu'il s'agit de 30, 60 et 100 pour un. Ce sont les fruits. Et chacun a sa mesure. On ne porte pas tous les mêmes fruits. Mais il faut qu'on porte des fruits. Zéro fruit, ça n'existe pas. Le chrétien converti doit porter des fruits. Mais de quels fruits s'agit-il? Et là, nous avons interrogé encore la parole de Dieu. Et là encore, la parole de Dieu nous éclaire. Et ces fruits sont clairement cités par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Ces fruits, ce ne sont pas des options. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas ces fruits, posez-vous la question. Il n'est pas question un parmi les autres. Tous ces fruits-là, nous devons les porter. Si nous ne les avons pas, il n'y a pas de fatalité. Revenons vers le Seigneur, dire « Seigneur, je n'ai pas ce fruit-là. » Et il s'en occupera. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, il n'y a pas de négociation. Et si je commence à minimiser, je faillis à mon rôle. Jésus dit dans Matthieu 7, 15, 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Vous voulez voir votre frère, votre sœur, converti ou pas, regardez mes frères et sœurs les fruits. Il y a des fruits, alléluia. Il n'y a pas de fruits. J'ai l'obligation de nous dire, posons-nous la question. Posons-nous des questions. Vous savez, la parole de Dieu, des fois, elle fait mal. Elle est tranchante. Mais il ne faut pas commencer à négocier avec. Hein? S'il n'y a pas de fruits visibles et discernables, attention, par les autres. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut s'auto-évaluer. Hein? Si je dis ça, je faillis encore à mon rôle. Si on commence à le faire, c'est qu'on est malade. Hein? C'est de l'égoïsme, il faut se psychiatriser, comme on dit. Non, on ne se regarde pas, on ne s'auto-évalue pas. Hein? C'est le frère et la sœur qui voient en nous les fruits ou pas. Moi, je vois en vous s'il y a des fruits dans votre conduite, dans votre vie. Mais vous, vous la voyez en moi. Il faut être clair. S'il n'y a pas de fruits visibles et discernables par autrui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a en nous une nouvelle vie. Oui. C'est là la clé pour comprendre notre parabole. La finalité est la production de fruits dignes de notre repentance. Oh, je peux comprendre au début qu'il n'y a pas de fruits. Mais après des mois et des années, là, il n'y a pas d'excuse. Là, il y a un problème. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 7 et 9, je lis. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les pharisiens qui viennent de lui, ils connaissent la parole de Dieu. Hein? C'est des religieux, ils la connaissent mieux que nous. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà ce qu'il leur demande. Le chrétien doit porter des fruits. pas les fabriquer. Je ne dis pas ça. J'ai envie de dire des fruits naturels de la vie chrétienne. Quand on est en Christ, nous portons des fruits. Je ne parle pas de fruits fabriqués, encore une fois, c'est la religion. Et la religion est une catastrophe. Porter des fruits, c'est porter la vie. Porter la vie, c'est accueillir et porter celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout se regroupe dans la parole de Dieu. Jésus, la vie. Si je dis Jésus, la vie, les fruits, en fait, je suis en train de dire la même chose. Vous parlez de fruits, Jésus. Vous parlez de la vie, Jésus. Si vous portez des fruits, c'est vous portez Jésus. La parole de Dieu est très simple. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création avec des fruits que l'apôtre Paul nous cite dans sa lettre aux Galates. Je les rappelle. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous sommes amenés à discerner ces fruits chez nos frères et sœurs dans l'Église. Oh, ma vie, tu ne regardes pas. Si. C'est ma vie. Pourquoi tu t'occupes de ma vie? Si. Tu es dans l'Église, tu es dans le corps du Christ. Il dit, ben, ça me regarde, ta vie. Si ta conduite n'est pas digne, je te le dis. Parce que le corps est une responsabilité et dans la tête est Jésus. Donc, s'il y a de l'égoïsme dans l'Église, on n'a rien compris encore une fois. Ma conduite, vous dépendez de ma conduite, je dépends, votre conduite, j'en dépends. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de moi, du moment qu'on est dans le même corps, et l'inverse aussi. On n'a pas à discerner ces fruits nous-mêmes chez nous, mais les frères et sœurs doivent discerner ces fruits chez nous. Dans son foyer, Son épouse, ses parents, ses enfants doivent discerner ses fruits et non pas soi-même. Je dois regarder ce qui ne va pas chez mon épouse et elle doit regarder chez moi qui ne va pas. Et on doit échanger à la lumière de la parole de Dieu et on change. Les enfants vis-à-vis des parents aussi. Et inversement. Bien des chrétiens ne soucient pas de ce témoignage naturel dans leur vie chrétienne. Ils continuent même à se comporter égoïstement comme le monde en montrant une certaine indifférence quant au témoignage que nous devons refléter dans notre entourage. C'est ma vie. Non. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. Jésus, c'est le témoignage pour les autres. La Bible nous dit que si nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Cette vie s'exprime par les fruits cités par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Et j'ai envie de dire, ces fruits, c'est le minimum. D'autres suivent par la suite. Mais celle-là, citée par l'apôtre Paul, c'est le minimum. Je nous invite vivement, mes frères et sœurs, à nous poser des questions quant au témoignage que nous transmettons à notre entourage. Chrétien ou pas. Je ne cherche pas à nous culpabiliser, mais à nous questionner et à nous remettre en question en toute transparence devant la parole de Dieu, parce que la vie chrétienne, c'est du sérieux. Je précise solennellement que je ne suis pas appelé à m'auto-évaluer. Si c'est le cas, eh bien c'est une grave erreur. Car dans ce cas, je me considère toujours comme le centre du monde. Je n'arrive pas à me détacher de moi-même. Je le répète, c'est l'autre, chrétien ou pas. Il était question ce matin de témoignage, les autres le voient. C'est l'autre, chrétien ou pas, qui est apte à discerner en moi le changement que la vie de Christ a opéré en moi. Ou pas. Mais j'enlève ou pas. Parce que quand il y a la vie du Seigneur, il y a le changement, normalement, qui se fait. D'où la responsabilité de chaque membre dans l'Église. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous avons une responsabilité réciproque. Chacun de nous doit discerner dans la vie et la conduite de son frère ou sa sœur les fruits de sa communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes appelés à nous alerter mutuellement avec amour et vérité. C'est à la lumière de cette introduction que nous pouvons traiter modestement maintenant notre passage dans Marc, chapitre 4, versets 21-25. Dans notre passage, une autre expression est utilisée pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Cette expression qui veut dire en fait Christ, la vie, les fruits, il est question de lumière. En fait, ça veut dire la même chose. La lumière qui jaillit d'où ? D'une lampe. Dans notre texte, il est question de lampe, certes, mais le mot lumière n'y est pas, mais on discerne qu'il s'agit bien de la lumière qui sort de la lampe. Une lampe sans lumière, il n'y a pas de lampe, ça n'a aucune valeur. Cette lumière est le Christ lui-même. Nous sommes les lampes, mais sans Christ, nous sommes éteints. Jean chapitre 1, verset 9, je lis, « Cette lumière était la véritable lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Le Seigneur lui-même déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes. Nous sommes appelés encore, nous sommes chrétiens, donc nous sommes des lampes. Malheureusement, nous pouvons être des lampes sans lumière. On peut être des chrétiens éteints. On peut être des religieux sans lumière. La lampe n'a aucune valeur si elle n'apporte pas la lumière dans l'obscurité. Nous sommes appelés à être cette lumière qui brille dans le monde, comme dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. On peut même aller plus loin. En nous appuyant sur la parole de Dieu, et dire que la lampe n'a aucune valeur si elle ne contient pas l'huile nécessaire qui permet de donner cette lumière, qui nous éclaire et qui éclaire notre entourage. Vous voyez bien, chers frères et sœurs, que le plus important n'est pas être des lampes, des chrétiens religieux, connaissant la parole de Dieu, je viens le dimanche, j'ai des habitudes, oh, j'ai des règles dans la vie. Ce n'est pas le plus important, on peut être des lampes. Car les lampes sans huile et sans lumière nous maintiennent malgré tout dans l'obscurité. Prenons l'exemple de la parabole des vierges sages et vierges folles. Je ne vais pas vous lire cette parabole, mais je laisse la référence, qui est Matthieu 25, versets 1 à 13. Ces vierges représentent l'Église, qu'elles soient folles ou sages. Les deux, c'est l'Église. C'est-à-dire tous les frères et sœurs, c'est-à-dire nous. Relevons un élément très important commun à toutes ces vierges, à toutes ces personnes. Qu'elles soient sages ou folles, elles sont toutes des vierges. C'est-à-dire, elles mènent une vie dans la consécration, dans la pureté, dans la piété, dans la religion, tout ce que vous voulez. Elles sont vierges. Néanmoins, les vierges folles le font par habitude et par religiosité, comme les pharisiens, sans se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors que les vierges sages portent des fruits de piété, de consécration, issue d'une communion spirituelle avec le Seigneur à travers le Saint-Esprit, représenté par l'huile qui remplit leur lampe. Et quand le Seigneur vient chercher son Église, seules les vierges sages seront prêtes, car elles ont l'huile nécessaire qui leur permet de discerner la voix de leur berger et ainsi rentrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, 15, 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » J'insiste là-dessus. Dieu, le Seigneur nous donne les moyens pour savoir. Alors ne mettons pas ça de côté. Si nous sommes en Christ, nous sommes tout naturellement appelés à devenir des véhicules, des lampes qui reflètent la lumière divine. C'est-à-dire des chrétiens qui témoignent de leur communion avec le Seigneur. Comment ? En portant des fruits dignes de notre communion avec le Seigneur. Quels fruits ? Je me permets de le rappeler encore pour la troisième fois. Il s'agit de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Un chrétien est un être de paix, est un être d'amour qui véhicule l'amour et la joie autour de lui. Si ce n'est pas le cas, posons-nous la question, mes frères et sœurs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 8 à 11, le Seigneur, s'adressant à ses disciples, leur dit « Si vous portez beaucoup de fruits, » oui, il est question de fruits. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses. Pourquoi ? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La parole de Dieu est claire. En cette semaine, je suis dans la lecture des Thessaloniciens, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et je relevais quelques passages. Pareil, il le dit aux chrétiens de Thessalonique. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Beaucoup de tribulations, c'est-à-dire souffrance, qui dit persécution. Il ajoute, « avec la joie du Saint-Esprit. » Ça veut dire, même devant la mort, on doit refléter et vivre la joie du Saint-Esprit. Vous êtes en train de dire, et je suis un peu théorique, un peu platonique, que sais-je. Ben, savoir la vie chrétienne, c'est ça. Ça sort de l'ordinaire. Dans la persécution, dans la maladie, dans tout ce qu'on veut, nous transmettons la joie du Saint-Esprit. Toujours dans cette lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 et 16. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Je dois l'effacer. De quelle joie il s'agit ? La joie du Saint-Esprit. On ne parle même pas de joie humaine. C'est la joie du Saint-Esprit. Si nous sommes en Christ, nous devons avoir la joie du Saint-Esprit. Si je ne l'ai pas, je retourne à genoux devant le Seigneur. Je ne suis pas d'accord, là, c'est marqué. Je veux l'avoir. Et je ne me lève pas tant qu'il ne me la donne pas. Troisième passage pour Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc l'amour et la patience, c'est un fruit. Et enfin, dans la deuxième lettre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. De temps en temps, occasionnellement, je l'ai souligné, en tout temps, mes frères et sœurs, c'est-à-dire dans la joie et dans les peines, dans la persécution, dans la mort, dans la souffrance, tout ce que vous voulez, en tout temps. On parle de la paix du Saint-Esprit. Il est très difficile de cacher la vie que nous avons en nous. Si nous sommes en Christ, on ne peut pas cacher la vie. À condition de l'avoir bien évidemment bien reçue. Comment le savoir ? Il suffit de lire la parole de Dieu et nous verrons aisément que cette nouvelle vie s'accompagne de fruits dignes de notre repentance et de notre communion avec le Seigneur. Un chrétien sincère, un chrétien repentant, ayant reçu le Seigneur sincèrement, comme sa priorité, comme son chemin, comme sa vérité, comme sa vie, porte obligatoirement des fruits. Car il est cette lampe qui brille sur le chandelier. On ne peut pas cacher cette lumière sous le boisseau ou sous son lit, comme le rapporte l'évangéliste Jean. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Il est vraiment désolant que dans mes recherches, avant de préparer le message, dans mes recherches des différentes interprétations de ce passage, Il est vraiment désolant que dans mes recherches des différentes interprétations pour préparer ce message, je tombe régulièrement sur une interprétation qui semble faire consensus dans le milieu chrétien. J'ai l'impression que je la trouve tout le temps. C'est quoi cette interprétation? Je vous la donne. Et c'était sujet ce matin. Quand le Seigneur parle de la lampe, qui ne doit pas être cachée sous le boisseau ou sous son lit, il nous demande de témoigner en toutes circonstances de notre foi chrétienne autour de nous. Ça revient souvent dans les interprétations. Et bien personnellement, mes frères et sœurs, je peux me tromper, mais par mes propres convictions, je vous dis que c'est une interprétation tellement simpliste et réductrice qu'au meilleur des cas, elle n'aboutit pas à grand-chose de tangible et fructueux. Et au pire des cas, elle peut faire des dégâts avec un contre-témoignage. Et j'insiste là-dessus. Plusieurs églises mettent en avant l'obligation de pousser ses membres de témoigner de leur foi dans leur environnement, autour d'eux, en s'appuyant sur des passages bibliques, par exemple, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est marqué. Il faut le faire, non? Mais on oublie une chose, que cette recommandation que le Seigneur a fait à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », à quel moment il leur a donné cette recommandation? Après presque 3 ans de formation, dans l'école du Seigneur Jésus-Christ. Durant tout le ministère terrestre du Seigneur, les disciples étaient avec lui. Et c'est au bout. Et d'ailleurs, il l'a fait après, quand il a ressuscité. C'est à ce moment-là qu'il leur a dit, « Allez, faites une nation disciple. » Nous, dès qu'on lève la main, « Je suis chrétien, viens mon frère, va maintenant rue piétonne et annonce la bonne nouvelle. » J'ai assisté à tellement de dégâts causés par des jeunes chrétiens. Dans moi, le premier, j'ai commis cette erreur, je vous le dis. J'ai donné des témoignages, j'ai parlé du Seigneur, alors que ma vie, c'était le contraire. Ou des chrétiens non affermis, qui ne portent pas de fruits dignes de leur repentance. Ces personnes sont devenues des contre-témoignages. Le monde leur renvoie systématiquement à la figure, leur propre vie et leur conduite qui contredisent leurs paroles. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, vous êtes chez vous et vous parlez du Seigneur d'un seul coup, votre épouse, votre époux, vos enfants disent « Mais t'as vu ta vie? De quoi tu me parles là ?» C'est un contre-témoignage, mes frères et sœurs. Ces chrétiens étaient bien des contre-témoignages en devenant, sans le vouloir certainement, des instruments de rejet de la foi chrétienne. Ça se peut qu'il y ait des frères et sœurs qui sont près du Seigneur, et parce que j'ai donné mon témoignage, ils voient au moins une autre loi dans ma chair, ben ils s'éloignent du Seigneur. Le témoignage efficace est celui de la vie. Ma vie doit être le témoignage sans que je parle. Il était question ce matin, on en a parlé. Si nous avons reçu le Seigneur comme étant le chemin, la vérité et la vie, nous portons des fruits. Ces fruits viendront appuyer notre témoignage quand Dieu permet qu'on ouvre la bouche pour parler de lui. Et ce, même dans les situations très, très difficiles, on nous risque en notre vie. Dans le cas contraire, je conseille mes frères et sœurs d'avoir de la sagesse, chose que j'ai transmise à mon propre fils. Il faut avoir de la sagesse qui peut nous suggérer, et ce sera certainement une bonne chose qu'il ne faut pas négliger. Des fois, il faut se taire, quand il le faut. Mais se taire pas pour s'effacer. Se taire peut-être pour se consacrer à sa relation et à sa communion avec le Seigneur. Parlez moins et passez plus de temps avec le Seigneur. De cette communion, le Seigneur nous apprendra l'obéissance, le dépouillement avec le soutien de son Saint-Esprit. Au point que nous avons peur, nous tremblons de témoigner de lui. C'est ça le vrai témoignage. Si vous parlez du Seigneur sans tremblement, c'est que nous n'avons rien compris. On parle de Dieu saint. On parle du Fils de Dieu. On parle du Sauveur. Si je parle de lui et ma vie ne correspond pas à ce que je dis, mais c'est un contre-témoignage. Et quand il le permet, notre bouche pourra s'ouvrir avec joie. Et là, l'annonce de la parole sera efficace et portera des fruits préparés d'avance par le Seigneur. J'assume que cette interprétation, ce n'est pas celle qu'on annonce, qu'on prêche dans les églises. Et je l'assume. Parce qu'on veut la facilité. Vous êtes chrétien, allez-y, annoncez. Mais annoncez quoi? qu'il est facile de parler de témoignage dans un environnement qui n'est pas hostile. Oh, c'est très facile ici. Où il n'y a pas vraiment de risque de souffrir jusqu'à perdre sa vie. C'est le cas ici. Demandez à nos frères et sœurs iraniens. Annoncez la bonne nouvelle en Iran, chez les Mollahs. Si on n'est pas conduit par l'Esprit Saint, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, par le Seigneur, on n'a même pas besoin de dire, on réfléchit, on n'annonce rien. Car si c'était le cas, on se rendrait rapidement compte de nos limites. C'est ainsi que je vous propose de lire et d'interpréter cette parabole de la lampe. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Ça veut dire, si on a la vie en nous, je n'ai même pas besoin de parler, ça se remarque autour de moi. Ça interroge l'entourage au point de dire, comme il l'a dit Jean d'Aristo tout à l'heure, il y a quelque chose en toi qui m'interpelle. Tu n'es pas pasteur par hasard. Vous voyez ? Il n'a pas besoin de le dire. L'entourage doit le remarquer. Il doit être interrogé. Soit ce que nous annonçons est l'expression de notre conduite et le fruit de la place centrale que détient le Seigneur dans notre vie, soit dans le cas contraire, les paroles que nous prononçons, mes frères et sœurs, deviennent un jugement contre nous-mêmes, puisque nous annonçons des choses que nous ne vivons pas. Et cette expression, elle revient quand on prend la Sainte Cène. Si on prend la Sainte Cène, ça avec cette conscience, etc., on prend un jugement contre soi-même. Ben, le témoignage, c'est la même chose. Prenons garde que nos paroles ne dépassent pas nos actes et notre conduite, car nos paroles nous reviendront comme un boomerang. On nous mesurera avec la mesure dont nous nous serons servis et on y ajoutera pour nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que la parole nous dit. En conclusion, ma prière est que la parole de Dieu s'écrive par l'Esprit dans nos cœurs. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mais laissons l'Esprit l'écrire dans notre cœur. Comment ? Allons vers le Seigneur, à genoux, dans la prière, dans la contemplation, dans les chants, dans les louanges. Cherchons le Seigneur dans une relation quotidienne, sincère et intime, à travers la prière, les louanges et la méditation de sa parole. Faisons, et là aussi, il ne faut pas le minimiser. C'est vrai, en Occident, on dit « Oh, j'ai pas besoin des autres !» Mais non. Faisons de nos rencontres fraternelles une occasion privilégiée, comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, pour avancer ensemble en conformité avec sa parole. Alertons-nous mutuellement s'il le faut, et laissons l'Esprit de Dieu nous conduire dans un dépouillement indispensable qui nous fait grandir dans la foi et qui fait de nous des chrétiens matures, à la stature de Christ, comme le dit l'apôtre Paul, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, égard à la théologie, si on l'apprend comme équivalent, comme égal de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes appelés à porter des fruits dignes de notre repentance, et ainsi, petit à petit, nous devenons des chrétiens préparés par le Saint-Esprit pour servir notre Seigneur et témoigner de lui selon sa volonté. Et la Bible nous dit sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Que le Seigneur nous aide. Amen.